Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués. Je suis très content d'être là. Je vous invite à m'imiter, à mettre votre téléphone sur silencieux si ce n'est pas déjà fait. Il y a plein de visages que je suis heureux de voir, de revoir. Certains auxquels je ne m'attendais pas et c'est vraiment une grande joie de vous retrouver ce matin. Je veux continuer d'explorer avec vous les épîtres de Jean, aujourd'hui. Et dimanche dernier, on avait lu en entier la deuxième lettre de Jean. Et on avait exploré cette question-là. On va lire ce matin le début de la première lettre de Jean. Donc, vous pouvez préparer vos bibles ou vos smartphones, parce que maintenant on suit sur les deux. Et puis, au premier chapitre de la première lettre de Jean. Alors, il ne faut pas confondre l'évangile de Jean et l'épître, la lettre de Jean. Et je rappelle très brièvement le contexte. Jean écrit à des églises. Il semble être un espèce d'évêque ou un responsable de plusieurs communautés. Et au sein de ces communautés, il y a une espèce de mouvement, de façon de penser un peu alternative qui est en train de fomenter. Et plusieurs choses caractérise cette nouvelle façon de penser, notamment le fait de ne pas croire vraiment que Dieu est devenu un humain. Il s'est déguisé en humain, il a pris l'apparence d'un humain, mais non, mais quand même, la divinité ne va pas s'abaisser, se diminuer, se souiller à prendre une nature humaine. Un peu plus tard, les premiers pères de l'Église devront lutter contre une hérésie qui portera le nom de docétisme, qui veut dire justement qu'une thèse qui croit que Dieu a pris l'apparence d'un humain. Jean, on le voit déjà dans ses épîtres et on va le voir déjà, s'oppose fermement à cela. Nous l'avons vu la semaine dernière. Il proclame avec conviction l'incarnation de Dieu. Dieu est devenu un humain. Et puis on verra encore quelques autres points qui soulèvent pour garder les églises dans le droit chemin. Mais avant de lire la parole de Dieu, je vous invite à prier avec moi. Nous approchons de toi, Seigneur, et nous voulons que par ton esprit, tu disposes notre cœur à une écoute honnête, sincère de ce que tu vas dire. Que ta parole nous transforme, que ton esprit soit à l'œuvre, et surtout que tu gardes mes lèvres et mon cœur droit devant toi. Amen. Je lis du début du chapitre 1, et nous arrêterons au verset 2 du chapitre 2. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernait la parole de vie. Et la vie a été manifestée. Nous l'avons vue. Nous en rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils, Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Et voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, eh bien, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de son de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et nous n'avons pas la vérité en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits-enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On sent bien déjà dans son introduction, dans son ouverture, pas très conventionnelle, que Jean veut revenir sur le cœur de ce qu'est pour lui l'Évangile, à savoir Dieu est venu parmi nous. Il le dit en faisant ces petites boucles-là de langage où il dit « Ce que nous avons entendu, vu, contemplé, que nos mains ont touché. » Il dit « J'ai fait une expérience physique de la parole de vie. » Je n'ai pas fait qu'entendre la parole de vie. Moi, je peux entendre une parole. Il dit « Moi, je l'ai vue, même contemplée. Hein? Je peux voir une étoile filante, mais je ne peux pas la contempler. Hein? Je peux entendre et sentir le vent, mais je ne peux pas le contempler. Je peux sentir un parfum. » Il y a des choses comme ça que nous sentons, mais qui disparaissent aussitôt que nous les sentons. Et puis il y a des choses qu'on peut contempler parce qu'elles restent là, parce qu'elles durent. Et Jean, il dit, cette parole de vie, ce n'est pas un flash, une révélation, non, non. Je l'ai expérimentée, touchée, sentie, entendue, contemplée. C'est du solide. Et ce que j'ai vraiment, ce que nous avons expérimenté, Nous vous l'annonçons. On n'est pas en train de vous balader, de vous mener en bateau. Nous vous annonçons clairement ce que nous avons vu. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Il dit, parce que nous voulons être ensemble avec vous. On a contemplé Jésus, on a compris qui était Jésus, et aussitôt qu'on a ressenti sa présence, cette conversion, vous connaissez ça? Alors nous étions en communion avec le Père et le Fils, et nous voulons que vous aussi, vous soyez en communion avec le Père et le Fils. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va vous présenter qui est Jésus. Et comme ça, vous allez être en communion avec le Père et le Fils, et avec nous. Et pour ça, il faut que le Fils fasse l'objet pour tout un chacun d'une rencontre avec nous. Premier point, l'incarnation du Fils. Et après avoir rappelé cette incarnation, Jean annonce le message. Et j'aime tellement comme c'est simple, mais il y a des heures et des heures d'explications à avoir sur cette simplicité absolue. Le message, c'est Dieu est lumière. Voilà. Alléluia. Dieu est lumière. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'imaginer que Dieu ne soit pas que lumière? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Dieu est ténèbre. Imaginons, ce serait un blasphème de dire ça, hein, littéralement, hein, Dieu est ténèbre. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Dieu tend des pièges. Ça voudrait dire que Dieu, Il dit quelque chose pour te faire croire qu'il a envie d'eux et qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'il va faire. Ça veut dire que Dieu, il s'engage, il donne des promesses pour te manipuler et ne pas les tenir. Voilà ce que ça voudrait dire que Dieu est ténèbres. Imaginez. Ça ferait de lui quoi? Un tyran, un dictateur, un despote, quelqu'un qui a tous les pouvoirs, on ne peut pas lui résister, et il fait ce qu'il veut, et de toute façon, c'est même pas qu'il a raison ou pas, c'est qu'on ne peut pas lui résister. Voilà un Dieu de ténèbres. Et Jean annonce clairement, j'ai une bonne nouvelle. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Il n'y a rien qui soit. Il y a des choses qui ne nous sont pas révélées. Il y a des choses qu'on ne connaît pas de Dieu. On pourrait dire quelque part qu'il y a des parts d'ombre de Dieu. Mais elles ne nous sont cachées que parce qu'on a un cerveau trop petit pour comprendre. Parce qu'elles ne sont pas de notre responsabilité. Elles ne nous sont pas cachées comme des secrets d'État qu'on mettrait sous le tapis, comme des affaires du gouvernement qui seraient étouffées pour pas faire scandale. Dieu assume tout ce que il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il est, et ce qu'il ne nous montre pas de lui, c'est pas que ah non, ça te concerne pas. Puis c'est juste que c'est pas accessible pour nous. Comme si j'essayais d'interagir avec des fourmis, avec le bout de mes doigts. Certainement qu'il y avait beaucoup de choses de mon être, de ma personne, qui seraient bien trop complexes pour ces petites fourmis à saisir. Et de la même manière, nous avons une vraie rencontre avec Dieu, mais nous sommes tellement loin de rencontrer tout Dieu. Mais Dieu est lumière, et ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Il est fiable. Nous pouvons lui faire confiance. Mais nous savons tous qu'au fond de nous, on n'est pas tous très clean. Nous savons tous au fond de nous que nous avons une part d'ombre. Il y a des choses que nous faisons que tout seuls. Des pensées que nous n'avons jamais exprimées à voix haute. Des choses que nous pratiquons dans les ténèbres. Alors que nous sommes appelés à marcher dans la lumière. N'est-ce pas? Mais nous n'osons pas. En tout cas, pas face aux humains, face à Dieu. Mais souvenons-nous de cette bonne nouvelle. Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de piège. Si Dieu te dit, viens marcher dans ma lumière, viens dévoiler tes ténèbres à ma lumière. Ce n'est pas pour nous mettre une taloche juste derrière. Ce n'est pas pour nous piéger. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas pour nous tendre une embuscade où je viens, Seigneur, ah, tu as fait ça, hein, paf! Et on s'en prend une. Quand Dieu nous appelle, nous attire à amener nos ténèbres à sa lumière, ce n'est pas pour une sanction. Ce n'est pas pour se faire choper, mais c'est bien pour nous en délivrer et nous amener à la pleine vie dans la lumière. D'ailleurs, il le dit très bien, qui a communion? Qui a communion avec Dieu? Qui a communion avec Jésus? Qui a communion avec le corps du Christ, avec l'ensemble des disciples? Celui-là qui marche dans la lumière. Celui-là qui marche dans la lumière. Mais celui qui marche dans les ténèbres consciemment, mais qui de ses lèvres dit « Je suis avec vous, je suis un chrétien, j'aime le Seigneur Jésus. » Celui-là est un menteur. Je laisse tout un chacun la responsabilité de savoir pour lui-même. Moi-même, je ne peux pas discerner dans vos cœurs. Je peux juste connaître ce que moi, je cache au fond de moi. Mais celui qui marche dans la lumière, on se dit parfois, ah oui, celui qui marche dans la lumière, c'est celui qui ne fait pas de péché. Non. La preuve en est, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. Si je marche dans la lumière, son sang me purifie de tout péché. C'est bien que je commets des péchés puisqu'ils me sont pardonnés. Mais simplement face à mon péché, je vais amener tout mon être à rentrer dans cette lumière et je vais laisser le regard de Dieu jeter sa lumière dans mes ténèbres et je vais le laisser transformer ces ténèbres en lumière. C'est un travail difficile. C'est un travail difficile et peut-être même douloureux, inquiétant. Mais pour ça, je vous le redis et je veux vous rassurer à nouveau, Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de traquenard, il n'y a pas de piège. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a promis, il le tient. Ce qu'il a donné, il ne le reprend pas. Et c'est bien pour ça que nous sommes appelés à cheminer vraiment vers lui en confiance. Ce sera un thème qui reviendra dans l'épître de Jean. Et étonnamment, je trouve, Jean ne parle pas de sanctions ou ne menace pas celui qui vit dans les ténèbres. Il ne lui dit pas, toi qui vis dans les ténèbres, eh ben, Dieu ne va pas te rater, alors que toi qui marches dans la lumière, oui, Dieu te fera bon accueil. Qu'est-ce qu'il dit à celui qui marche dans les ténèbres? Il lui dit, tu te leurres toi-même. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Tu crois que tu maîtrises le truc? Tu crois que tu domines les autres? Toi qui te persuade que non, c'est pas grave, que quand même tu as le droit, qu'il y en a qui font pire, que tout ça. Jean dit non, tu ne fais que te séduire toi-même. Tu n'es pas au-dessus des autres. Tu ne maîtrises pas le truc. Tu ne fais que te perdre toi-même. Nous nous séduisons et la vérité n'est pas en nous. Et vous savez ce qu'il a écrit dans l'évangile de Jean? Si vous demeurez dans mes paroles, dit Jésus, dans mes enseignements, mes commandements, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire la vérité vous rendra libre. Marcher dans cette lumière, marcher à la lumière du Christ, c'est un chemin vers ma liberté. Et ces dénis de mensonges, ces fois où j'ai péché en fait, j'ai mal agi et que je veux l'amener dans les ténèbres pour que ça ne ressorte pas, pour ne pas avoir à emporter les responsabilités, les conséquences et ces choses-là, je me séduis moi-même et je m'éloigne de la liberté en Christ. Imaginez un instant ne plus avoir aucun secret à porter et à garder. Ne plus avoir honte de rien dans votre vie. Être en règle et en paix avec tout ce que vous faites, tout ce que vous pouvez dire et tout ce que vous pouvez penser. Quelle liberté! Mais quelle liberté! Au lieu de ça, nous devons nous bagarrer avec des choix où nous n'arrivons pas à savoir entre le mauvais choix et le pire mauvais choix. Au lieu de ça, nous avons à nous batailler avec nos pensées, des désirs qui surgissent parfois en nous, que à la fois nous les désirons, mais à la fois nous savons qu'ils ne sont pas conformes à la volonté de Dieu et nous ne savons pas comment nous en débarrasser toujours. Nous sommes habités parfois par des réactions violentes ou de vengeance ou de jalousie. Parfois nous les caressons, parfois nous essayons d'y mettre un terme. Ce n'est pas le repos qui habite tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Des conflits, des duels, de royaumes. Et on essaye de tenir bon jusqu'à ce que le royaume du Christ triomphe. Parce qu'il triomphera, mes frères et sœurs, il triomphera. Et vous tenez bon et vous serez libérés de toute chose. Alors que faisons-nous en attendant ? Nous marchons dans la lumière. Nous cherchons toujours plus à rentrer dans cette lumière. Nous travaillons à vivre dans une sincérité. Ça ne veut pas dire que je raconte toute ma vie. Ça veut dire que quand je parle sincèrement. Nous travaillons à rentrer dans une humilité. Oui, quelque chose de la repentance qui revient souvent. Et une vulnérabilité les uns face aux autres. Et on peut avoir l'impression que c'est une vie de faiblesse, une vie où nous ne cherchons pas à être fort et dur, résistant. Et que dans le monde dans lequel on vit, cette résistance, cette dureté, supporter les insultes, le mépris, savoir tacler en retour, ça peut être une bonne chose. Mais premièrement, ce n'est certainement pas bon pour le royaume qui vient, où il n'y aura plus de guerre, plus de meurtre, plus de haine, plus de division, plus de disputes, plus de conflits. Et deuxièmement, c'est raisonner vraiment à la manière du monde, à savoir, plus je suis capable de détruire, plus je suis capable de faire de mal, plus je suis capable de résister au mal, et plus je suis fort et grand. Et on le voit à des échelles internationales, les États qui mesurent entre eux leur capacité de destruction. L'ONU devrait organiser une grande compétition de capacité de construction pour déterminer quel est l'État le plus puissant. Quel État peut éradiquer telle maladie ? Quel État peut résoudre le problème de l'eau dans tel pays ? Quel État peut... Voyons quel État le plus fort, quel État le plus capable de bénir, le plus capable de construire, le plus capable de guérir. Au lieu de ça, nous mesurons la puissance d'un État, à sa capacité à dominer économiquement, à assujettir militairement. Et dans nos vies, qui est le plus fort ? Celui qui peut bénir et servir, manifester une douceur patiente envers tous, ou celui qui peut détruire et gagner et semer la terreur par ses coups de sang, ses coups de colère. Jean nous écrit ceci afin que nous ne péchions pas. Non pas que nous serions sans péché, mais que nous ne cheminerons pas dans le péché, en cheminant dans les ténèbres. Ayons confiance en Dieu, ayons confiance en Christ, il est devenu notre avocat. Il plaide notre cause d'une manière tellement efficace que jamais, au grand jamais, nous ne sortirons de la présence glorieuse de Dieu dans laquelle nous nous tenons maintenant, en esprit, On ne le sait pas, on ne le voit pas. Mais nous sommes tous cachés dans Jésus. Vous vous souvenez des poupées russes ? Et Jésus lui-même est face à Dieu. Et moi qui suis caché en Christ, et vous qui êtes caché en Christ avec moi, nous nous tenons face à Dieu. Et Jésus, notre avocat, intercède en permanence et parfaitement pour nous. Nous avons des bonnes raisons de marcher dans la lumière. C'est un exercice difficile, mais c'est un exercice de tous les jours. Il ne vous est pas demandé de ne pas faire un seul faux pas, un seul écart. Il nous est demandé d'accepter ce nouveau chemin, ou ce chemin ancien, selon votre vie, comme étant le seul chemin vers le Christ. Un chrétien n'intrigue pas. Un chrétien ne manipule pas. Un chrétien ne triche pas. Un chrétien ne dissimule pas pour s'avantager. Un chrétien n'agit pas dans les ténèbres parce que notre maître et notre roi, Jésus-Christ, n'a jamais agi dans les ténèbres. Et notre Dieu et Père de tous, Créateur du monde, est un Dieu de lumière, un Dieu fiable, un Dieu stable, un Dieu permanent, un Dieu qui ne trahit pas, qui ne reprend pas, sur qui nous pouvons fermement compter. Puissions-nous tous être bénis de Dieu et devenir connus pour être fiables, fiables. Dans l'hébreu, le sens du mot « vrai » n'a pas le même sens que pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est ce qui s'est réellement passé, concerne la réalité ou non des choses. Pour les Hébreux, ce qui est vrai, c'est ce qui est fiable. Une table peut être vraie, si je peux monter dessus, sauter dessus et qu'elle ne casse pas. Un homme peut être vrai si sa parole et ses actes sont justes et conformes à ce à quoi il s'est engagé. Et quand on dit la parole de Dieu est vraie, elle a fondé les montagnes, c'est pour dire que quand Dieu dit une chose, nous pouvons compter dessus les yeux fermés. Et les chrétiens, les disciples de Jésus, devraient gagner à être connus dans ce sens-là. Sommes-nous fiables ? Eh bien, frères et sœurs, marcher dans la lumière nous conduira à cette fiabilité. Et pour nous tous, le premier pas vers cette fiabilité sera un grand pas d'humilité. D'humilité. Il y a ce pasteur que je connais bien, je lui partage une nouvelle difficile et puis il me dit « Tim, tu seras dans mes prières aujourd'hui. » Et j'ai bien aimé ce « tu seras dans mes prières aujourd'hui. » Et il ne s'est pas engagé à plus. Pourquoi ? Il aurait pu dire « tu seras dans mes prières. » Mais il sait que il n'est pas forcément doué, puis qu'il a plein de choses à faire et peut-être plein de choses à prier, et qu'il va, oui, penser à prier pour moi aujourd'hui, et que demain, un nouveau jour se lèvera et que d'autres choses lui tomberont dans la tête et qu'il aura oublié. Et il ne voudrait pas que je croie que pendant 3 semaines d'affilée, avec le jeûne, il va prier pour moi. Alors, il a ces paroles de lumière qui ne le mettent pas en valeur d'une certaine façon, dans lesquelles il laisse transparaître des faiblesses, mais qui le rendent fiable. Qui le rendent fiable. Ce qu'il dit, je peux le croire. Ce qu'il dit, je prierai pour toi aujourd'hui, m'encourage à le prendre pour fiable, parce qu'il ne parle pas pour se mettre en avant, il ne parle pas pour s'avantager. Ce qu'il pose entre lui et moi, c'est une relation de vérité et de confiance. Ce sont là des relations fécondes, puissantes. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde aussi. Nous sommes appelés à rayonner dans ce monde, à vivre cette grâce où je peux constamment recommencer à marcher juste derrière Jésus, ne jamais me lasser de tomber, de recommencer. Pour avoir ce témoignage étonnant dans le monde, devenir des personnes qui ne se prennent pas au sérieux, mais qui font les choses avec sérieux. Des personnes qui ne croient pas, non pas dans l'apparence et ce que pensent les autres de moi, mais sur est-ce qu'on continue de marcher sur le bon chemin. Frères et sœurs, il nous faut marcher dans la lumière. C'est le mieux pour vous. C'est le mieux pour nous. Quand je dis pour vous, c'est pour chacun d'entre vous. Quand je dis pour nous, c'est pour cette vie communautaire. C'est le mieux pour eux, qui ne nous connaissent pas encore, mais qui peut-être un jour vont mettre les pieds dans cette église et se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils ne se mettent pas en avant? Pourquoi ils ne se la pètent pas? Pourquoi est-ce que... Mais ils parlent autrement. Et vous savez que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que tous verront que nous sommes des disciples du Christ. Faites-le pour vous, faites-le pour nous, faites-le pour eux, et faites-le parce que Dieu est lumière, et ça, c'est une excellente nouvelle.